Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous. Du côté du Vigan, on aime le cinéma, notamment dans la troupe Aux Étoiles, qui gravite autour de l'association de Colinda Ferro et de ses complices. Ils et elles ont souhaité participer à cette commémoration, manifestation et mobilisation autour de la célébration de la loi sur l'IVG et aussi autour des 2 ans de la fermeture de la maternité de Ganges. Ils et elles sont allés rencontrer Elisabeth Salvaresi pour créer à partir de ces échanges d'histoire et de mémoire des documents exceptionnels. On en a discuté donc avec eux dans une salle du Bourriou au Vigan la semaine dernière. Et je laisse Colinda nous faire le petit topo sur le projet.
Eh ben bonjour, ici c'est la troupe aux étoiles. Enfin, ici tu as Milly, Hélène, Anaël, Jaco et Tao de la troupe aux étoiles. La troupe aux étoiles, c'est une troupe de cinéma qui crée des petits films tous les ans, c'est-à-dire qui les écrit, qui les répète, qui les travaille, qui les tourne. Donc tout le monde est autant à la technique qu'au jeu d'acteur. Et aussi, cette troupe aux étoiles, elle travaille avec d'autres gens du Vigan, avec des habitants, avec des assos, avec des personnes. Et puis, on monte des projets toute l'année et on se retrouve une fois par an pour les présenter à la Chandeleur. Et des fois, il y a des projets un peu spécifiques qui ont lieu. Et là, le projet particulier, c'est que le 18 janvier, c'était donc la fête Bon Anniversaire Simone. Et il y avait l'idée de célébrer les 50 ans de la loi Veil et les 2 ans de fermeture de la maternité, si on peut dire célébrer.
C'est aussi impliqué dans le collectif Maternité à défendre.
Je suis aussi impliquée dans le collectif et je me suis dit que c'était une super occasion pour la troupe aux étoiles de travailler sur d'une autre manière, puisque d'habitude on fait de la fiction, et de se dire comment on fait pour aller enquêter, collecter et documenter à petite échelle. On avait très peu d'ateliers libres pour le faire, mais l'idée c'était de se lancer dans cette aventure-là et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc l'idée c'était, je te donne quand même le global, c'était on va rencontrer Elisabeth Salvaresi, journaliste féministe historique, qui habite à Saint-Thibault. Plutôt, elle vient nous rencontrer. À 30, on se met autour d'elle et on l'interview. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Surtout, elle raconte aux plus jeunes, c'était ça l'idée, ce que c'est que ces luttes féministes, pourquoi, et ce que c'était que l'IVG aussi, etc. Sur ce, on voit ce que chacun et chacune en a retenu. Les plus jeunes font des propositions d'écrit, des propositions de visuel, théâtre d'ombre, etc. Et les mamies de la troupe peuvent en profiter pour raconter ce qu'elles, ça leur a évoqué. Voilà. Et donc tout ça, ça a été enregistré, filmé par l'équipe. Derrière, j'ai essayé de monter avec donc des pertes de vidéo et des pertes de son, mais c'est pas grave, on l'a fait.
Donc il y a un document qui est presque prêt à être montré, qui sera là pour l'occasion.
Et oui, il sera là et il sera projeté à l'Arc-en-Ciel en première partie de la projection d'Annie Colère.
Je vous posais plusieurs questions, on a parlé des jeunes, peut-être on peut commencer avec vous si ça vous dit. Cette rencontre, du coup, vous y étiez avec Elisabeth. Alors, est-ce que tu la connaissais déjà, cette histoire un petit peu, cette époque ?
Bah non, pas trop. Au début, je savais pas trop. Et du coup, là, j'ai appris quelque chose. On en apprend tous les jours.
De nom, je savais qu'il y avait une loi qui s'appelait Veil, mais je savais pas en quoi elle consistait. Donc, j'ai appris à quoi elle consistait. Mais là, de tête, je saurais pas dire. Ensuite, j'ai bien aimé faire cette interview. Parce que du coup, ça nous permet d'apprendre d'autres choses, comme Milly l'a dit. De nouvelles choses, tout ça. Et ça nous permet de... Ça nous a permis, enfin moi, personnellement, ça m'a permis d'apprendre que, en fait, les femmes, elles n'ont pas eu beaucoup de droits avant, à l'époque, et qu'elles se sont vraiment battues pour les avoir. Et qu'il faut qu'on continue à se battre pour avoir plus de droits. Et pour être égales, en quelque sorte, avec les hommes.
Et cette femme, Elisabeth Salvaresi, Qu'est-ce que vous avez pensé d'elle et de son histoire, si elle vous a raconté un peu sa vie?
Bah, moi, j'ai trouvé ça plutôt un peu incroyable qu'on ait interviewé une personne qui avait vécu ça, et j'ai bien aimé parce que je trouvais ça extraordinaire.
Et moi, je trouvais que c'était touchant parce qu'elle nous a raconté un peu son enfance et que déjà petite, elle voulait faire... avoir plus de droits, se battre pour les femmes. Donc, c'est ça qui était bien. Et aussi, savoir un peu sa vie, tout ça. Donc, c'était un peu comme si on nous racontait une histoire quand on allait, en fait, dormir au lit. Donc, c'était bien.
Et vous deux, vous êtes des filles. Est-ce que cette histoire-là, vous pensez que c'est du passé, justement, cette question des droits à conquérir, ou qu'encore aujourd'hui... Peut-être ici ou dans le monde, vous avez entendu que tout n'était pas gagné, qu'il y avait encore des combats à mener aujourd'hui.
Moi je pense que c'est jamais vraiment fini. Là, il y a encore beaucoup d'un peu d'injustice, et même si en France c'est déjà mieux, c'est toujours un problème à régler. Enfin,
c'est vrai qu'on doit continuer à se battre. Et je sais que dans d'autres pays, il y a des femmes qui n'ont plus le droit d'avorter. Et ça, c'est un des droits le plus important pour une femme. Parce que c'est comme si, en fait, elle était obligée de porter un enfant, même si elle ne le voulait pas. C'est un peu contre son droit.
Et pour finir sur le film ou les événements qui vont avoir lieu, vous avez eu quelles idées, vous, au niveau artistique, de choses à proposer? Comme on a la radio, qu'il n'y aura pas d'image, est-ce que vous vous sentez capable de décrire un des tableaux qui va être fait? Ou l'idée, c'était quoi l'idée déjà?
En fait, l'idée, c'était d'écrire une lettre de remerciement à Elisabeth, on va dire en résumant ce qu'on a retenu pour la remercier, et après montrer des ombres chinoises qu'on a fait ensemble par petits groupes pour montrer ce qu'on a retenu, tout ça. Je sais qu'il y en avait une que j'ai fait avec deux autres filles. Il y en avait une, elle faisait une petite fille qui allait à l'école avec un livre à la main. Moi, je faisais une femme enceinte. Et une autre fille faisait un homme. Et cette fille qui faisait l'homme, en quelque sorte, elle me frappait. Et je tombais au sol alors que j'étais enceinte, avec un bras aussi un bébé dans les bras. Et la petite fille, elle est tombée au sol et elle pleurait. Et du coup, voilà.
Alors ça, tu peux expliquer comment vous avez fait ces ombres?
En fait, il y avait un tissu qui était accroché sur des fils. Derrière, il y avait une genre de lumière, un peu comme un projecteur. Ouais, un spot.
Ah, okay.
Et après, on prenait des accessoires, tout ça, et on passait derrière le tissu. Et avant, on avait répété, et voilà.
Ok. Toi aussi, tu as fait des ombres?
Oui, moi aussi, j'ai fait des ombres. Et sur la lettre, du coup, qu'on écrit à Elisabeth, moi qui joue du piano, j'ai joué la lettre à Élise pour aller avec.
Pas mal.
C'était rigolo.
Tu sais jouer la lettre à Élise?
Oui, en quelque sorte, oui.
Tu l'as appris pour l'occasion?
Je l'ai apprise pour l'occasion.
Les adultes. Alors, la piste aux étoiles, on continue. La troupe aux étoiles, pardon. C'est Jaco, que je connais, Hélène et Tao. Alors, cette rencontre avec Elisabeth Salvarezi, des retours.
Je disais que j'étais vraiment impressionnée par l'énergie de cette personne et de voir la motivation avec laquelle elle a lancé le projet du MLF. Et vraiment, c'est impressionnant parce qu'elle nous a raconté plein de mouvements, enfin, tout ce qu'elle avait fait, toute l'implication qu'elle avait mis dans cette énergie, enfin, l'énergie qu'elle avait mis dans cette envie de faire avancer la place de la femme. Et vraiment, c'est édifiant, quoi. Mais comment dire, le chemin qui a été parcouru depuis, il est quand même pas mal, parce qu'en France et en Europe, on est à peu près bien lotis, mais il y a encore des choses à faire. Mais néanmoins, dans le monde, c'est terrible, la condition féminine dans les autres pays, c'est triste, c'est à pleurer, c'est même incroyable que ça existe encore. Et voilà, moi, je me dis qu'il faut continuer, à vouloir s'affirmer en tant que femme et être reconnue, parce qu'après tout, une femme, c'est une femme, et puis elle a le droit d'avoir la même place qu'un homme, il n'y a aucun problème. Après, je ne sais pas, j'en ai tellement raconté de choses que je ne me souviens pas de tout, mais vraiment, c'était édifiant, quoi, tout ce qu'elle a dit. Bravo à elle, quoi. Bravo à elle, ouais.
Donc, ce qui a été terrible, c'est que c'était un très beau moment, mais donc j'ai perdu tous les sous. Et donc, il a fallu faire un montage différent, donc d'inspiration. Et cette expérience qu'on a vécue derrière avec quatre femmes, je vous appelle maintenant les quatre mamies de la troupe, qui racontent en écho ce qu'elles vivaient à cette période-là, m'a semblé très intéressante. Du coup, je te tends la perche, Tao, parce qu'on en a parlé toutes les deux.
Bon, alors oui, peut-être des souvenirs personnels ou ce que ça a fait résonner.
Oui, en fait, Elisabeth, c'est quelqu'un qui avait un peu une espèce de rébellion en elle, due aussi à son histoire familiale avec un père très répressif et très autoritaire. Donc, elle a dû se rébeller déjà contre cette autorité patriarcale au sein de sa famille. Et elle a extrapolé en dehors pour en participant à la création du mouvement Libération de la Femme. Et que ça a été concomitant avec la loi Veil. Donc, c'était tout un ensemble de contextes qui tendaient vers la libération de la femme. Après mai 68, moi, je n'étais pas en France, je suis d'origine portugaise, mais ça a été, ça allait de soi, on va dire, d'aller vers une lutte pour l'égalité homme-femme. Et elle nous a raconté comment des réunions qui se faisaient dans la rue et des réunions qui se faisaient dans les quartiers et comment elles se retrouvaient dans des cafés où elles élaboraient cette lutte et ce mouvement qui a été qui est né de façon presque spontanée. C'était comme répondre à un besoin, puisque les femmes voulaient se libérer de ce patriarcat et de cette différence d'égalité. Donc, à savoir que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire, de toucher son salaire, de signer un contrat sans l'autorisation du mari, de sortir du territoire français pour les Françaises, sans l'autorisation du mari, qui n'avait pas l'autorité parentale, si elle divorçait, qui dépendait complètement de l'homme. Elle passait de fille d'eux à femme d'eux, d'où le nom marital. Donc, elle passait du nom du père au nom de... Voilà, c'était comme un échange presque commercial. D'ailleurs, c'est un moment où le mariage était... stratégiquement, avec un intérêt commercial pour joindre les terrains pour les paysans, pour joindre les richesses. On se marie entre cousins, cousines, parce que comme ça, on augmentait la richesse familiale. Et c'est tout ça qui est le mouvement. Moi, parfois, j'entends dire, une femme ne peut pas être égale à l'homme parce qu'un homme, il a des muscles, la femme, elle n'a pas de muscles, on ne peut pas... Et ce n'est pas ça le sujet. C'est sûr qu'il y a des métiers qui vont attirer plutôt les femmes, d'autres qui vont attirer plutôt les hommes, mais c'est dans la liberté du choix. C'est-à-dire, si une femme, il y a des femmes qui sont maçonnes, il y a des hommes qui sont sages-femmes. Et c'est pas. La question, c'est une égalité de droits. On a tous les mêmes droits en tant qu'être humain. Et ce n'est pas se battre contre un homme. C'est juste dire, même dans une famille, le partage des tâches, et ça doit être inné, ça doit être spontané. On ne doit pas avoir à demander à son homme, au père de ses enfants, d'aller chercher les enfants à l'école, ou de les nourrir, ou de se lever la nuit quand ils sont malades. C'est tout ça qui fait partie de la libération de la femme et de l'égalité des droits. Et il n'y a pas question d'aller contre les hommes, c'est juste d'aller pour les femmes.
Et puisqu'on peut vous parler du Portugal, comment, si vous étiez là-bas à cette période, justement, au milieu des années 70, et où on en était là-bas?
Alors, Portugal a vécu un fascisme qui a duré 45 ans, qui s'est terminé en 1974, le 25 avril, avec la révolution des œillets. Jusqu'à cette période, c'était pas question de libération de la femme. On vivait sous le fascisme, un fascisme assez dur. Moi, j'ai fait des études, je suis née en 53, j'ai fait des études dans des écoles pour filles, une école primaire, après le lycée, il n'y avait pas de collège à l'époque au Portugal, lycée avec une discipline très sévère. On n'avait pas le droit d'être vu accompagné par un homme, même un frère, dans un rayon de 7 km autour du lycée. Et on avait des surveillantes qui vérifiaient dans les arrêts de bus et qui contrôlaient que cette règle interne du lycée, mais qui s'appliquait à l'extérieur du lycée, soit appliquée. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de frère, mais imaginons, si mon frère est passé en voiture devant le lycée, je ne pouvais pas monter dans sa voiture.
Donc, j'imagine, du coup, la question de l'avortement, jusqu'à cette période-là, elle n'était même pas de toute façon discutée. Alors, quoi.
Au Portugal, la question de l'avortement a été bien au-delà de 1974, mais je pense que c'était tout un autre... C'était aussi un intérêt, c'était le lobby médical aussi qui a fait beaucoup de résistance, parce que c'était devenu un négoce. Voilà, il y avait des sages-femmes, il y avait des médecins qui avortaient en clandestinité, et que comme c'était en clandestinité, qui risquait gros, ça coûtait très cher, bien entendu. Ouais. Donc, c'était réservé qu'aux personnes qui avaient un peu d'argent. Donc, il y avait, comme en France, ce qu'on appelle les faiseuses d'anges, des sages-femmes ou des femmes qui avaient été formées là-dessus, qui pratiquaient l'avortement de façon un peu empirique, on va dire. Mais il y avait aussi pas mal d'infirmières, voilà, mais sans anesthésie, bien entendu, quand il y avait des hémorragies, quand il y avait des infections, donc il y avait des gros soucis. L'avortement s'est légalisé au Portugal dans les années 80.
Est-ce que je peux vous poser la même question sur cette période, les souvenirs que vous en avez?
La loi Veil, c'était en quelle année donc?
75, hein.
75. Disons que moi, j'ai tout le contraire des personnes qui voulaient avorter parce que moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc, j'ai subi le problème inverse. Et j'ai eu des gros soucis pour arriver à faire un enfant. Et quand j'étais opérée, on ne m'a pas demandé mon avis. Et le chirurgien, tout seul, il a décidé qu'il fallait tout m'enlever. Donc, les ovaires et l'utérus. Sans me demander mon avis, sans m'informer et sans informer mon mari. C'était assez violent. Et ça, j'ai vraiment... je l'ai mal pris, quoi, parce que c'est incroyable que, même si j'avais des problèmes, ça nécessitait qu'il m'en parle, quoi. Et ça, c'était une violence incroyable, quoi.
C'était vers quelle époque ?
Alors, moi, c'était en 81. Ah ouais. En 81, j'ai eu cette opération.
Un peu de violence...
Ouais, franchement. Et toute ma vie, parce que j'ai eu au moins... presque 15 années de soucis pour justement avoir un enfant. Et à chaque fois, j'avais affaire qu'à des hommes, des gynécologues, tout le monde, c'était que des hommes. Et j'aurais tellement aimé que ça soit une femme qui me soigne, quoi. Ben jamais, chirurgien des hommes, tous les gynécologues, que des hommes. C'était horrible, quoi.
Et alors aujourd'hui, dans le secteur, en plus, pour voir une gynécologue ou accéder à des services obstétriques, bon, c'est la maternité de Grange.
Ouais, en plus de ça, donc on n'est pas vraiment... On n'est pas aidé, hein. Bon, finalement, moi, mon histoire, elle s'est terminée. J'ai adopté une petite fille. Alors, ça va, j'ai eu une belle récompense. Ouais, voilà.
Lato, tu veux nous partager tes souvenirs de 1975?
Moi, j'étais encore gamin, moi, en 75 ans. Donc moi, c'est venu bien après. Par contre, moi, j'ai été formé très tôt, si je puis dire, au lycée. qui a été un grand chamboulement dans ma vie, parce que j'ai rencontré une fille dans ma classe qui était une très grande féministe, pur jus, enfin vraiment. Donc moi, j'ai découvert ça, je sortais de troisième en seconde, avec cette fille qui était un peu punk, enfin anarchiste, très mûre par rapport à moi à l'époque d'ailleurs. Donc moi, j'étais dans un univers papa, maman, enfant. Là, ça m'a chamboulé un petit peu toute ma façon de penser sur l'égalité des sexes, etc. Donc j'ai quand même baigné en fait dans le féminisme assez tôt. Enfin, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Avant, disons que je pensais que le premier problème, c'était la lutte de classe. Maintenant, je pense que le premier problème, c'est l'inégalité des sexes. Dans le sens où on est dans une société patriarcale depuis, on va dire, 2000 ans, enfin, depuis tous ces empires. Enfin, moi, c'est mon analyse. Que là, ben, je pense qu'il serait temps de dresser le bilan de cette histoire qui n'a mené qu'à des guerres, enfin, des conflits, des massacres. Est-ce qu'on peut retrouver aussi dans les cours de récréation, moi en tant que garçon, quoi, je veux dire, enfin les rapports entre hommes qui sont très virilistes, voilà, moi je suis de petite taille, donc j'en étais un peu victime de toute cette histoire. Donc moi je fais un rapprochement en fait entre tout ça, entre ce point de départ de j'en ai une plus grosse que toi, quoi, en fait, moi que je résume comme ça. Et qui, au niveau des pouvoirs, se traduit par des armées qui se rencontrent, quoi. Donc, moi, je pense qu'il est temps d'en finir, effectivement, avec ce type de société. Enfin, qui se traduit, donc, effectivement, là, j'ai relu encore un truc chez les talibans où on arrive à des trucs complètement démesurés, quoi. Enfin, de ce truc. Et je pense, par exemple, que MeToo, c'est un peu le dernier gros coup de pied qui est mis dans la fourmilière. Pour un peu réveiller les esprits et sortir un peu de ce mode de fabrication qu'on a, quoi. Voilà. Après, sur la suite, un peu des événements du MLF, bon, bah, moi, j'avais déjà entendu parler. J'ai un vague souvenir aussi, quand j'étais gamin, des infos là, qui parlaient de ces manifestations de femmes pour l'avortement et qu'il y avait aussi des contre-manifestations. Bah, c'est un combat, mais c'est un combat qui a commencé, mais même bien avant, en fait, hein, puisque je me suis pas mal intéressé à la Commune de Paris, enfin, l'événement de la Commune de Paris en 1871, donc... Du coup, je suis remonté un peu en arrière et j'ai vu qu'en fait, il y avait eu beaucoup de femmes qui se sont mises dans la bataille à revendiquer au sein du mouvement ouvrier, mais aussi en tant que femmes. Donc, bon, il y a Olympe de Gouges déjà, une des premières références qui nous revient. Il y en avait une autre aussi durant la Révolution française. Je ne me souviens plus de son nom, qui était plus guerrière d'ailleurs. Et après, Génie d'Héricourt, je ne sais plus. Il y a tout un paquet de femmes comme ça. Est-ce que bon, je me suis intéressé aussi à la Commune de Paris, et dans la Commune de Paris, ben, j'ai réalisé donc alors que les femmes n'étaient pas au sein du Conseil de la Commune, mais c'était des femmes de divers groupes, enfin qui pouvaient être anarchistes, d'autres qui étaient plutôt blanquistes, etc., etc. Mais ce que je constatais, c'est que entre elles, elles n'avaient pas les conflits qu'il y avait entre les hommes, même au sein de la Commune de Paris, qui était d'organisations différentes. Et je trouvais, bon, il y a André Léo aussi qui me revient, qui ont vraiment des analyses qui me paraissent franchement percutantes au niveau même de l'organisation de la société, en partant même des fois de la position de la femme dans la société, et qui arrivent à avoir une vision de compréhension des problèmes plus globaux, en fait. Voilà. Voilà ce que je peux dire.
Ben, merci à vous. Hein, encore un petit mot. Ouais,
merci. Juste. Donc j'ai écouté très attentivement Jacques, c'était très intéressant. Au XVIIIe siècle, les métiers, ils étaient féminisés. Aujourd'hui, on se dit, il y a eu une loi qu'on a essayé de faire voter pour la féminisation des métiers, mais c'est-à-dire, on devait dire pour la démasculinisation des métiers. Parce qu'au XVIIIe siècle, donc, il y avait les métiers qui se déclinaient en masculin et en féminin de façon tout à fait naturelle. Et après, il y a eu une période, 19e, 20e siècle, où un peu la chair était interdite, on va dire. Là, j'utilise le titre d'un ouvrage très intéressant, La chair interdite. Et on a remarqué un recul. Donc il y a eu une masculinisation des métiers. Donc aujourd'hui, on se bat pour féminiser les métiers, mais le terme il est mal utilisé. On devait dire pour démasculiniser les métiers. Et pour revenir aux droits de la femme, il y a eu aussi un recul pendant cette période. Les femmes au 19e, 20e siècle qui avaient du plaisir en dehors de la procréation étaient traitées de hystériques et l'hystérie était une maladie psychiatrique. Donc elles étaient soignées pour assouvir le plaisir chez les médecins, comme une maladie. Tandis qu'au 18e siècle, une femme pouvait porter plainte parce que son mari ne faisait pas le nécessaire pour qu'elle ait du plaisir.
Juste, moi, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui m'a touchée sur ce projet, c'est dans cette expérience, c'est qu'avec la générosité d'Elisabeth, son histoire, on a eu une fenêtre ouverte, une porte ouverte, qu'elle nous a raconté plein de choses, mais elle est revenue beaucoup sur le fait qu'elle s'était battue dans la joie, en s'amusant avec sérieux, et que ça, c'était vachement intéressant par rapport à nous en ce moment. De recevoir cette parole-là, de s'en souvenir pour les personnes qui l'ont vécu à d'autres moments, parce que les temps sont durs, parce que les temps sont à la dépression collective, individuelle même, je dirais, et que là, on a besoin, par exemple, pour la maternité de Ganges, pour le droit à l'IVG à la maternité de Ganges, pour les Cévennes, pour le milieu rural en général, qu'on ait encore la niaque de s'unir pour le droit des femmes, particulièrement là, et en général pour nos droits. Et donc, c'était très nourrissant qu'elles viennent raconter. Et derrière, super touchant pour moi, l'expérience de vous, les quatre mamies qui racontent aux enfants présents votre vécu. Et je pense que c'est le début d'une aventure. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce moment d'échange entre les générations, d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre. Je suis sûre que les enfants ont beaucoup de choses à apprendre aux plus âgés et que ça pourrait être l'occasion de faire des petites bulles documentaires comme ça sur des sujets. Ça m'a donné des idées pour la suite. Donc merci Elisabeth, merci les filles, merci Jaco.
La troupe aux étoiles prépare aussi des surprises pour le mois de février. On en reparlera sur les ondes de Radio Escapade. En attendant, vous pouvez suivre les activités de cette troupe et de l'association en allant sur leur site sousles-étoiles.art. Il y a aussi une page Facebook dédiée aux activités de cette joyeuse équipe. Voilà. Et vous souhaite une bonne continuation sur les ondes de Radio Escapade en cette journée spéciale.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nos que non t'hemos pasado, mujeres, nos que non t'hemos historia, logo da noite dos tempos, mujeres, nos continente negro, erga. Vámonos, mujeres, rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mujeres trafegadas, violadas dentro de todas as casas, mujeres e do mundo illadas. Ergámonos, mujeres, rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Reconhece.
Hacémonos todas mujeres, no sentir donos allá, oprimidas a las mujeres, queremos revelar, irgámonos mujeres, rachemos las barreras, ente.
Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.